This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour à tous, j'ai plaisir à vous retrouver cet après-midi pour 90 minutes info dont je vous présente les thèmes de débat juste après la minute info de Somaïa Labidi. Bonjour Somaïa.
Les grands axes du plan France Ruralité dévoilé à la mi-journée par Elisabeth Borne. Il comprend une quarantaine de dispositions et au cœur du programme, la biodiversité. Les villages seront rémunérés grâce à une dotation biodiversité qui sera portée de 42 millions d'euros à plus de 100 millions. Une enveloppe de 15 millions d'euros est également prévue pour le logement, les commerces et la santé. Enfin, pour désenclaver ces territoires ruraux, un fonds de 90 millions d'euros sur 3 ans doit être débloqué. Nouvelle violence à l'égard des élus de la République. La permanence du député Jean-Marc Zulesi a été dégradée. L'inscription « La Macronie tue le fret » a été taguée sur la devanture. Sur Twitter, l'élu des Bouches-du-Rhône a invité les auteurs à échanger sur sa volonté de défendre le fret. Et puis l'épilogue du Partygate pour Boris Johnson. L'ancien dirigeant conservateur a été reconnu coupable d'avoir menti au Parlement. Après avoir été notifié des conclusions accablantes de 14 mois d'enquête, il a quitté son siège de député la semaine dernière. Dans un long communiqué, l'ex-premier ministre réaffirme penser ne rien avoir fait de mal et dénonce un assassinat politique.
Merci beaucoup. Et dans l'actualité, donc aujourd'hui, la garde à vue du mari de Karine Esquivillon, disparue en mars en Vendée, a été prolongée de 24 heures. Retournement dans cette disparition que nous commenterons d'ailleurs dès le début de cette émission.
Elle a pris des affaires. Elle a préparé des affaires, puisque les affaires étaient préparées d'avance, puisqu'elle est partie avec un certain nombre d'éléments dont certains dont je ne peux pas parler.
Tel que ça a été expliqué par Michel, ça m'a toujours paru... Très bizarre, ce départ précipité en plein après-midi ne lui ressemble pas.
66% des Français sont favorables à la restriction du droit d'asile. Le débat est évidemment relancé de plus belle après le drame d'Annecy.
Ce qui va arriver là, c'est une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme tout en restant humain. Donc, une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques-là. Et il y a également ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen.
Et puis quel est donc ce sentiment anti-français de plus en plus présent dans plusieurs pays d'Afrique alors que le désengagement militaire se poursuit et se précise ? Analyse à suivre.
On commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur et des ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'extérieur par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Les trois principales critiques se tournent autour des trois piliers de la politique africaine de la France, à savoir sur la monnaie, sur l'aide et sur la présence militaire.
Tous ces thèmes, nous allons les aborder avec les quatre invités que je reçois aujourd'hui. Bonjour Naïma M. Fadel, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Céline Pina, bienvenue. Bonjour. À vous également. Noémie Schulz du service police-justice, on va commencer avec vous dans un instant. Et puis Karim Zeribi, je vous le disais, il y a quelques secondes, c'est un rebondissement quand même cette semaine dans une affaire qui interpelle les enquêteurs depuis le mois d'avril déjà. La garde à vue de Michel Pial a été prolongée de 24 heures, c'est le mari de Karine Esquivillon. Il est entendu dans l'enquête pour enlèvement et séquestration, élargi entre-temps à des faits de meurtre. Bonjour Mickaël Chaillou, vous êtes sur place. Quelles sont les dernières informations, les dernières avancées qu'on peut pointer dans cette enquête?
La garde à vue se poursuit. Nelly, vous l'avez dit, elle avait débuté hier matin à 8h30 au domicile de Michel Pial et Karine Esquivillon à Maché en Vendée, une petite commune. Sur place, les enquêteurs avaient procédé à une perquisition du domicile, du jardin et même des terrains alentour dans le hameau où ils vivent. Cette garde à vue, elle intervient 2 mois et demi après la disparition de Karine Esquivillon. Et pendant ce temps-là, on a vu Michel Pial mal, notamment dans les médias, donner sa vérité sur la disparition de sa femme. Il n'a cessé de répéter que c'était une disparition volontaire que sa femme avait elle-même organisée. Alors reste malgré tout qu'il existe de nombreuses incohérences dans le récit de Michel Pial, un homme au profil complexe, un brocanteur de métier déjà condamné à multiples reprises pour escroquerie et par ailleurs un homme qui, nous l'avait dit d'ailleurs quand on l'avait rencontré, était adepte de tir sportif. Il possède même à son domicile plusieurs armes. Alors il a déclaré, évidemment, un homme qui a déclaré la disparition de sa femme aux gendarmes et ce 6 jours après qu'elle ait quitté le domicile conjugal. Théoriquement, la garde à vue, elle, peut se poursuivre jusqu'à demain matin, 8h30.
Merci beaucoup et merci à Alexis Vivier qui vous accompagne. Avant de comprendre un petit peu ce qui est en jeu avec vous, Noémie, je vous propose d'écouter quelques mots du mari de cet homme qui est au cœur aujourd'hui, au centre de cette enquête.
J'ai fait plein de choses entre les deux pour la retrouver. Je ne suis pas resté les mains libres à bronzer au soleil en disant j'attends que tout se passe, comment ça se passe, et puis voilà. Effectivement, je suis tireur, voilà, donc mes armes ont été vérifiées, tout.
Vous faites du tir sportif,
c'est ça ? Tir sportif, vous voyez, depuis 2014. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau, tout est réglementaire, donc, aucun problème. Ils ont tout vérifié, mais moi j'étais content de les voir ici. Hein. Je crois que je suis une des rares personnes en France à être content d'avoir la police chez lui. Parce que je voyais que ça bougeait, enfin ça bougeait.
Voilà, Noémie Schulz, j'imagine que vous avez un peu épluché ce dossier. Ce qui frappe d'emblée, quand même, ce sont les incohérences dans le discours tenu par cet homme. C'est ça qui a finalement conduit les enquêteurs à s'intéresser un peu plus à lui.
Ça et peut-être d'autres éléments, sans doute même d'ailleurs. C'est vrai qu'on se dit, mais pourquoi est-ce que les enquêteurs ont attendu si longtemps pour le placer en garde à vue ? C'est peut-être le temps aussi qu'il leur a fallu pour récolter un maximum d'éléments auxquels ils sont très certainement en train de le confronter. Vous savez, quelqu'un qui est dans une position de déni, pour essayer de le faire craquer, on va lui apporter des éléments qui sont difficiles à contrecarrer. Effectivement, ce qui a intrigué les enquêteurs, c'est différentes versions qu'il a pu donner, notamment sur le moment où elle est partie. Il a d'abord dit qu'il avait vu, qu'il avait couru derrière une voiture, et puis à un autre moment, il a dit qu'il n'était pas vraiment là, en tout cas qu'il ne l'avait pas vu partir. Il y a aussi les témoignages de l'entourage, hein, qui depuis le début s'étonne que cette mère de 5 enfants ait pu quitter sa famille, notamment, et sans donner de nouvelles, c'est-à-dire que quitter son mari, c'est une chose, mais abandonner tout derrière elle et partir uniquement avec un livret de famille, un peu d'argent, un téléphone portable, c'en est une autre. Il y a ce téléphone portable qui a été retrouvé aussi 2 semaines après sa disparition, dans un fossé à proximité. Il n'y avait plus de carte SIM, mais il y avait toujours de la batterie. Tous ces éléments, bien sûr, et sans doute de nombreux autres, ont été récoltés par les enquêteurs depuis sa disparition, en tout cas depuis qu'elle a été signalée, hein, puisqu'il il l'a pas fait tout de suite.
Il a attendu Michel plusieurs jours.
Il a attendu plusieurs jours. Et ils ont attendu le bon moment, effectivement, pour le placer en garde à vue.
Et puis on parle de photos aussi prétendument envoyées d'un lieu de vacances, alors qu'en fait elles avaient été récoltées sur Internet.
Oui, il a envoyé. Il y a eu des échanges entre le téléphone portable de Karine Esquivillo et ses filles, en tout cas une de ses filles, notamment des photos de la dune du Pilat, où elle explique qu'elle est en train de se reposer. Or, ces photos sont des photos dont les enquêteurs ont pu retrouver que c'est des photos qui provenaient d'Internet. Donc, de toute façon, la piste de la disparition volontaire, comme il semble en être convaincu, laisse beaucoup de gens très, très sceptiques. Donc après, est-ce que Karine Esquivillon a fait une mauvaise rencontre ? Est-ce qu'elle est tombée sur quelqu'un d'autre ? Est-ce que son mari a joué un rôle dans cette disparition ? C'est bien sûr l'objet de cette enquête, comme vous l'avez dit, qui a été élargie, enlèvement, séquestration et meurtre. Ça veut dire que les juges d'instruction se préparent peut-être à une issue dramatique concernant cette femme.
Et puis, il y a quand même autour de cet homme, on le voit à mesure que l'enquête progresse, un parcours quand même, et que les langues se délient, un parcours semé d'épisodes de mythomanie, un rapport particulier à l'argent et même à la violence, semble-t-il.
Oui, là encore, hein, ce sont les témoignages recueillis auprès de, notamment de sa première femme, ancienne compagne, qui parle d'une emprise, une forme d'emprise, qu'il avait pu se montrer psychiquement violent, pas forcément physiquement, mais psychologiquement. Cette première épouse qui est aussi convaincue qu'un jour il a tenté de l'empoisonner en lui cuisinant une omelette avec des champignons qui l'a rendu malade, ainsi que ses parents. Mais lui, il n'en avait pas mangé. C'est un homme qui se présente comme un brocanteur et qui a eu des problèmes aussi avec la justice pour des questions d'escroquerie. Il a eu des condamnations aussi pour non-paiement de pension alimentaire, pour abandon de famille. Donc, c'est effectivement quelqu'un qui ne présente pas un profil parfaitement
c'est pas monsieur tout le monde,
blanc. Ouais. Et encore une fois, les enquêteurs, ils ont des choses à vérifier. Maintenant, on ne sait pas comment tout ça va se terminer. On ne sait pas si cette garde à vue va être levée avant le délai des 48 heures. Et surtout, s'il sera mis en examen à l'issue de cette garde à vue pour des chefs d'enlèvement, séquestration et meurtre.
Un petit tour de table pour savoir ce que cette affaire vous inspire. Karim Zeribi, ça en rappelle beaucoup d'autres. C'est ça le truc, c'est que il y a quand même beaucoup de parallèles qui peuvent être dressés avec d'autres affaires très retentissantes aussi dans les médias. Même si chaque situation est différente et ça ne fait pas de lui encore
évidemment, un meurtrier, évidemment. Bien sûr. Il y a énormément de zones d'ombre. Hein. Après ce qu'on vient d'entendre, effectivement, il y a des zones troubles, il y a des zones grises, comme on dit. Les enquêteurs font leur travail. Bon, il est présumé innocent au moment où nous parlons. Il est important de le rappeler qu'il est en garde à vue. Il peut faire des aveux, alimenter l'enquête par le travail des enquêteurs. Il y a les deux véhicules aussi, à la fois de son épouse et son véhicule, qui ont été mis sous scellé, qui vont être analysés de près par la police technique et scientifique. Il y a eu des perquisitions à nouveau. Donc, il y a un travail de fond qui est fait. Mais comme toujours, dans ce genre d'affaires, le spectre est très large au départ. Bien et sûr, petit à petit, il se resserre. Et là, effectivement, il y a des doutes qui sont posés par son incohérence, par son profil, personnalité complète. Donc, le travail des enquêteurs, donc il faut raison garder, il ne faut pas s'emballer, mais il faut faire confiance aux enquêteurs. Oui, ça rappelle l'affaire Jubilard, ça rappelle l'affaire Jonathan Davant, ça rappelle moi encore qui ai un peu plus d'ancienneté, on a eu un tueur d'enfants, Patrick Henry, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui disait face caméra sur une chaîne publique qu'il fallait la peine de mort pour celui qui avait tué le petit, c'était lui. Donc il y a des personnalités très complexes.
Un petit mot, Naïm Mfadel, et puis on va retrouver le spécialiste criminologue Jean-Pierre
Bouchard
à distance. Ce qui est
étrange aussi, c'est qu'apparemment, elle avait une proximité relationnelle avec sa sœur. Elle s'appelait tous les deux, trois jours, et que là, elle n'a pas du tout appelé sa sœur. Et puis, un élément important, et ça, je le dis en tant que maman, c'est que vous ne laissez pas vos cinq enfants comme ça, et d'autant plus sans nouvelles, même si à un moment, vous avez envie de faire un break. Je pense que vous donnez des nouvelles ou vous les emmenez avec vous déjà, si vous voulez quitter votre mari parce que ça ne va plus, ou alors au moins vous donnez des nouvelles.
Ou vous les mettez à l'abri, ouais. Oui. Céline Pina.
Oui, on imagine.
C'est en train quand même de se resserrer l'étau autour de ce personnage.
Manifestement, oui. Et puis, il faut dire quand même que dès qu'on l'entend s'exprimer, on peut émettre un certain nombre de doutes, tant la parole en elle-même est incohérente. Cette histoire d'une femme qui partirait en laissant cinq enfants derrière elle à un homme dont on n'a pas l'impression qu'il est forcément le père, en tout cas ça n'a pas l'air d'être très clair.
J'avais trois enfants ensemble et elle avait deux,
elle avait deux enfants par ailleurs, donc ça paraît extrêmement étrange, surtout vu le profil de la personne. Et la deuxième chose, c'est de remarquer quand même qu'en général, quand il y a meurtre de femmes, c'est très souvent à l'intérieur d'un cercle relativement intime, là où les hommes, quand ils s'assassinent entre eux, si j'ose dire, vont à l'extérieur.
Jean-Pierre Bouchard, bonjour. Je rappelle que vous êtes psychologue, criminologue. L'audition d'un suspect, en tout cas de ce suspect, à votre sens, comment ça va se passer? Est-ce qu'on rejoue la scène? On le confronte à ses incohérences, à ses différentes versions qu'il donne? On cherche la faille dans les souvenirs? À quoi ça ressemble une audition d'un suspect comme ça et une garde à vue prolongée?
Alors c'est difficile hein, parce qu'on n'est pas dans le huis clos de la garde à vue, mais généralement ce qu'on fait, on laisse la personne s'exprimer d'elle-même, on essaie de créer un lien, et puis de façon très large, on demande des choses comme ce qu'elle a déclaré par rapport à ça. Et petit à petit, on en vient à des questions beaucoup plus précises en fonction de ce qui a été dit par la personne et en fonction des éléments qui ont été recueillis en parallèle par les enquêteurs. Il y a différentes personnalités, évidemment, de mise en cause ou de garder à vue, puisqu'on n'en est pas encore là, de garder à vue. Il y a d'abord des gens qui parlent très peu ou qui choisissent de ne pas parler. Alors là, c'est très difficile. Mais il y a des gens qui sont bavards. Et là, il semblerait qu'on soit face à quelqu'un qui parle relativement abondamment, si on a tout compris, et s'il maintient le type de relation et d'expression qu'il a eu précédemment, ce qui facilite les choses parce qu'il va livrer plein d'informations, fausses ou vraies. Il va aussi peut-être se contredire, il va peut-être aussi amener des éléments probants ou au contraire certaines incohérences. Et bien sûr, ça va être beaucoup plus facile pour les enquêteurs pour s'appuyer là-dessus et pour amener petit à petit des éléments de preuve qu'ils ont pu recueillir en parallèle. Alors ces éléments de preuve ou ces indices sont nombreux, et puis il y a des choses matérielles, ce sont les choses les plus déterminantes en général, mais il y a aussi les témoignages, les choses comme ça, qui peuvent entrer en ligne de compte, tout ça sur un laps de temps très resserré, qui est celui de la garde à vue.
Alors je vous propose d'écouter un autre extrait de ce qu'a dit Michel Pial, où il parle des théories, selon lui, sur la disparition de son épouse.
J'en ai trois. J'en ai une, elle est partie, de toute façon, ça c'est sûr, volontairement. Ça se passe très bien, invite en love, machin, et ça se trouve, elle les a pas vus, les avis de recherche à la télé, parce que c'est pas les chaînes qu'elle regarde. Mmh. Les réseaux sociaux, bon, c'est pas son trip non plus. Peut-être que l'homme avec qui elle est, effectivement, ils sont très amoureux, mais lui n'a peut-être pas envie d'avoir les enfants dans les pattes. Ou alors, je sais pas. Après c'est l'inconnu, et après on imagine tout et n'importe quoi.
Entretien réalisé le 22 mai, c'est quand même important de le préciser. Hein. Ça fait déjà un certain temps qu'on l'avait interviewé, cet homme. Jean-Pierre Bouchard, quand vous entendez cet individu, est-ce que vous vous dites, il y a parfois des hommes comme ça qui se racontent des histoires et qui finissent par y croire? Est-ce que c'est un peu ça le schéma mythomane?
Alors, la mythomanie, c'est une pathologie. Hein. C'est quelque chose où la personne ne peut pas faire autrement. Mais dans les affaires judiciaires, ce qu'on voit le plus couramment, c'est le fait de mentir. Le fait de mentir pour des raisons utilitaires. Alors, je ne veux pas coller à cette affaire, mais tout simplement pour donner des fausses pistes, pour écarter les soupçons sur d'autres personnes ou sur d'autres hypothèses que soi. Ça, c'est la raison la plus courante de ce qu'on peut appeler l'altération de la réalité, c'est-à-dire il y a le mensonge, mais il y a aussi le fait de cacher des choses, par exemple. Donc, est-on là-dedans ou pas, c'est ancien, là, ces propos-là, et dans la procédure actuelle, ce sont aux enquêteurs de faire la preuve de sa culpabilité. Donc, les enquêteurs vont évidemment investiguer ces hypothèses schématiques là, qu'il vient de livrer, et qu'il aura sûrement ou peut-être relivré à nouveau pendant la garde à vue. Et donc les enquêteurs vont s'appuyer là-dessus et puis sur bien d'autres choses pour vérifier tout ça.
Une dernière question. Noémie Schultz nous disait tout à l'heure, il est fort probable qu'ils en sachent plus que ce qu'ils veulent bien dire, les enquêteurs, et qu'ils aient sans doute des éléments à leur disposition. Parlons aussi de cette perquisition qui a été menée pratiquement concomitamment. Ça permet quoi? Ça permet de rassembler des éléments numérique, informatique, au-delà de passer la maison au peigne fin, on récupère tous les fichiers pour voir effectivement s'il y a des choses dans les recherches, peut-être qu'il a pu mener en ligne, qui peuvent diriger, orienter l'enquête.
Oui, alors la perquisition, c'est très utile, hein, parce que d'abord, c'est surtout pour une affaire comme ça, où il est question éventuellement de rapports de deux personnes qui vivent ensemble, hein, puisqu'il dit que ce n'est plus un couple au sens intime du terme, mais ils vivent sous le même toit. Donc ça permet de comprendre un petit peu l'ambiance sur le plan matériel, de voir dans quels espaces ils ont vécu, et puis d'analyser plein d'éléments matériels, de faire des saisies même, pour vérifier les grands classiques qui sont les outils numériques et les traces que ça peut laisser. D'autres indices matériels, par exemple, comme les traces de sang éventuelles quand il y en a, je ne parle pas de cette affaire, hein, mais ce sont des choses évidemment qui sont très importantes. Donc ce genre de choses très matérielles sont vraiment essentielles, hein, parce qu'il y a les propos donc, de la personne, mais il y a à côté les preuves qui, elles, sont vraiment les plus importantes, qui sont toujours les preuves matérielles, qui sont incontestables. Et c'est d'ailleurs une des grandes avancées de la polytechnique scientifique d'avoir fait des progrès là-dessus, notamment par rapport aux analyses de sang, par rapport aux analyses ADN, etc., tout ce que l'on connaît maintenant.
Merci beaucoup Jean-Pierre Bouchard de nous avoir éclairé de vos lumières. Noémie, et puis aussi, je le rappelle quand même, un témoignage un peu troublant des enfants au moment où leur père est venu les récupérer à l'école, qui disent voilà, il était en sueur. Ouais.
Et c'est vrai que cet aspect est important de la perquisition et éventuellement d'éléments matériels. On se souvient que Jonathan Daval pareil, avait été placé en garde à vue 3 mois après la disparition de sa femme. Or, les enquêteurs, c'est ce qu'ils avaient expliqué au procès, dès le début de l'affaire, ils s'étaient intéressés à lui. Il avait des griffures, il avait, là aussi, il avait des incohérences, mais ils avaient pris le temps. Et notamment, Jonathan Daval, il a beaucoup nié en garde à vue. C'est au 5e interrogatoire qu'il avait fini par craquer. Et c'était effectivement parce qu'il y avait des éléments matériels. Il y avait le tracker de son véhicule qui montrait qu'il avait fait des allers-retours pendant la nuit. Il y avait aussi le capuchon d'un produit inflammable qui avait servi à mettre le feu à Alexia Fouillot, qui avait été, on avait retrouvé en gros la bombe sur le lieu du crime et juste le petit capuchon dans chez lui. Il y avait des draps aussi qui avaient servi et dont on avait pu reconstituer qui provenaient de, oui, de leur domicile. Et on imagine, enfin bien sûr, les enquêteurs gardent ces éléments, ils mettent pas tout sur la table dès le début, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, le gardé à vue peut être totalement acculé. Et avoir du mal à s'en sortir. Après, il y a d'autres affaires, et on le voit avec Cédric Jubilard, où vous mettez une personne en garde à vue, vous la mettez en examen, vous la placez en détention provisoire, et 2 ans après, elle continue de nier les faits. Là, on ne sait pas encore si les magistrats vont estimer qu'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en examen.
Alors, la mise en examen, c'est à l'issue de cette garde à vue de 48 heures.
Voilà, à l'issue de cette... Alors, d'abord, la garde à vue, elle peut se terminer aussi plus tôt. Elle peut, oui, aller jusqu'à demain matin à 8h30. Elle peut être levée plus tôt s'il n'y a pas suffisamment d'éléments. On le remet en liberté, quitte à le replacer en garde à vue ultérieurement. Et puis, il peut être sinon présenté au juge d'instruction qui, s'il estime qu'il y a suffisamment d'indices graves et concordants pour le mettre en examen, le fera, avec sans doute à ce moment-là un placement en détention provisoire au regard de la gravité des faits qui sont en jeu.
Qui sont commis. Karim Zeribi, on voit aussi, c'est vrai que chez les enquêteurs, de plus en plus, c'est une tactique qu'on découvre après coup, que de laisser un peu comme ça filer le suspect, si tant est qu'il ne représente pas un danger immédiat pour d'autres membres de l'entourage, parce que ça leur permet aussi de l'évaluer, de le jauger, de le suivre un petit peu.
Bien sûr, et on ne peut pas enquêter dans un contexte de précipitation. Donc ça doit se faire avec le souci du détail. Et donc il y a tous les interrogatoires qui sont faits en parallèle de gens qui ont des liens avec la famille. Il y a le suivi du suspect, parce que même si les enquêteurs nous expliquent aujourd'hui qu'ils ont des doutes, peut-être qu'ils en ont depuis quelques semaines et qu'il est suivi. Et quand il y a une commission interrogatoire qui est ouverte, on peut mettre sur écoute quelqu'un qu'on estime effectivement suspect pour le suivre. Donc, ils essaient d'avoir le plus d'éléments possible parce que le moment de la garde à vue, c'est le moment où ils vont abattre les cartes les unes après les autres pour le faire craquer, donc, en le mettant face à ses contradictions, face à ses incohérences. Donc ce travail d'enquête, c'est un travail, j'allais dire, de précision. Ils sont très forts, les enquêteurs.
Ça ne sert à rien de placer quelqu'un trop tôt en garde à vue.
Bien sûr.
Ça entrave l'enquête, absolument. Okay. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On va suivre évidemment ce dossier avec beaucoup d'attention. On s'interrompt quelques minutes et puis on revient pour parler de ce sondage que j'évoquais dans le sommaire. 66% des personnes que nous avons sondées estiment qu'il faut restreindre le droit d'asile, en tout cas lui donner une autre forme et peut-être contraindre les personnes candidates à l'asile à le faire à distance. À tout de suite. De retour pour la suite de l'émission et le débat reprend juste après le JT. Mickaël Dorian, bonjour Mickaël.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. Des températures records pour un mois de juin. Le Monde vient de connaître son début juin le plus chaud jamais enregistré, a souligné dans un communiqué le service européen sur le changement climatique Copernicus. Un probable avant-goût d'El Niño, le phénomène météo qui a officiellement commencé. Il est généralement associé à une augmentation des températures mondiales alors que la sécheresse frappe l'Europe et que des incendies monstres ravagent en ce moment même le Canada. Dans l'actualité également, Elisabeth Borne en déplacement en Vendée. La première ministre a présenté un plan pour répondre aux enjeux spécifiques du monde rural et notamment sur la question de la mobilité. Je vous propose de l'écouter.
Sur les mobilités, pour sortir de la dépendance à la voiture individuelle, nous devons donner aux territoires les outils pour développer des alternatives, par exemple du domicile à la gare. C'est le sens du fonds de soutien de 90 millions d'euros sur 3 ans que nous créerons pour accompagner les autorités organisatrices de la mobilité rurale avec l'appui des associations. Il permettra le développement d'une offre de transport du dernier kilomètre, innovante, écologique et solidaire.
Le Sénat va ouvrir une commission d'enquête parlementaire sur l'assassinat de Samuel Paty. La conférence des présidents du Sénat cherche à établir les failles qui ont amené à la décapitation de l'enseignant en 2020. pendant 6 mois la question du signalement et du traitement des pressions, menaces et agressions dont les enseignants sont victimes sera examinée. La création de cette commission a été votée à main levée ce matin au Sénat en réponse à la demande d'une partie de la famille de Samuel Paty. Marlène Schiappa n'est pas mon amie, il n'y a pas eu de copinage. Les mots de Mohamed Sifaoui, auditionné devant la commission d'enquête du Sénat aujourd'hui, il est mis en cause dans l'affaire du fonds Marianne. Ce fonds mis en place après l'assassinat de Samuel Paty pour lutter contre le séparatisme. Écoutez cet échange tendu entre le journaliste et le rapporteur général de la commission des finances, Jean-François Husson.
Ça, c'est une accusation à charge.
Non. Donc vous donnez...
Je ne vous permets pas de préciser. Je ne précise rien du tout. Vous allez retirer tout de suite ce que vous venez de dire. Il n'y a aucune posture chez moi. Vous entendez, il n'y a aucune posture. Je ne suis pas un homme politique, il n'y a aucune posture.
Votre déclaration...
Je vous retire tout de suite. Je n'ai rien de comparable avec Mme Schiappa, c'est clair. Rien de comparable.
Je ne retire rien, de la même manière que j'ai fait observer hier à Mme la ministre. Sur la question de l'équité et de la transparence, elle a utilisé les mêmes mots que l'inspection générale de l'administration.
Pardonnez-moi, ce que vous dites est ridicule.
Si vous voulez, parce qu'il
y a des insinuations
si
derrière.
Vous voulez, y a
On se
aucune,
serait concerté
y a aucune, non,
C'est
du
ce
tout,
que vous êtes en train de dire
Pas du tout.
On vous l'annonçait hier, le pape François va mieux et on l'a appris aujourd'hui. Il sortira de l'hôpital demain, soit 9 jours après son opération de l'abdomen. Le pape a été opéré d'une hernie abdominale le 7 juin dernier à la polyclinique Gemelli de Rome. Ses audiences ont été annulées jusqu'à dimanche. Et direction la porte de Versailles à Paris, où se tient en ce moment le salon Vivatech. Pour cette 7e édition, le salon accueille jusqu'à samedi plus de 2200 exposants et 10 000 représentants de start-up. Un salon placé cette année sous le signe de l'intelligence artificielle. Michel Chevalier s'y est rendu pour CNews.
La grande question que l'on se pose avec toutes ces start-up, à quoi ça sert l'intelligence artificielle? Vous allez voir, à des gestes quotidiens. Vous allez regarder, là, ce que vous voyez là, c'est mon image en bleu, c'est que j'ai une bonne posture, et puis à côté, madame. Et regardez, quand madame se baisse, regardez l'image, elle est en rouge, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la bonne posture. Par contre, si elle se plie, elle plie les jambes, elle adopte la bonne posture. Autrement dit, c'est une merveilleuse machine à analyser le comportement. Et bien, ça va servir à quoi? Eh bien, pour la formation professionnelle, ici à La Poste, pour les infirmiers, pour les kinésithérapeutes. Vous voyez que l'intelligence artificielle, finalement, c'est pas si mal que ça. Alors, ce que l'on aime ici à Vivatech, c'est l'imagination. Vous allez voir, tout est possible. Tenez, regardez. Vous avez sous les yeux ce que j'appelle un peu le facteur de demain, le livreur de colis. Géopost, regardez, vous voyez ce robot? Au centre de tri, on charge le colis. Le robot a dans sa tête l'adresse, on la programme. Il envoie le message à la personne, attention, je vais partir. Et on le fait partir et il va calculer son itinéraire, éviter tous les obstacles et arriver chez vous. C'est pas beau, hein?
Voilà, Michel Chevalet depuis le salon Vivatech qui se tient donc jusqu'à samedi au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Nelly Denac, c'est à vous pour la suite de 90 Minutes Info.
Merci beaucoup, cher Mickaël. Vous feriez livrer avec un robot comme ça, intelligence artificielle? Non, mais il y a beaucoup d'obstacles et puis il faut éviter les travers. On est tellement conditionnés, les vols, les entraves.
Donc c'est surtout, c'est toujours pareil. C'est-à-dire, si vous êtes dans un environnement urbain hyper maillé, peut-être, pourquoi pas? Enfin, c'est absolument pas possible dans des environnements ruraux. Ou alors, il va se faire dégommer par le premier tracteur qui passe.
On ne sait pas, il y aura peut-être des couloirs spéciales livraison.
Moi qui suis sceptique sur l'intelligence artificielle, quand j'entends Michel Chevalet et sa passion...
Ça vous donne envie d'y croire.
On est obligé d'avoir envie d'y croire. Et qui est fantastique, notre Michel.
Non, puis il y a quand même cette histoire de cet homme qui réussit à marcher alors qu'il est paralysé. Ça, c'est quand même quelque chose qui touche et qui émeut.
Bon, on n'a pas fini d'en parler en tout cas et on y reviendra indirectement tout à l'heure, vous le verrez. Penchons-nous sur l'attaque d'Annecy et surtout ses conséquences. Le débat autour du droit d'asile, vous le savez, est relancé plus que jamais et il y a maintenant ce sondage CNews auquel on a fait procéder dans la foulée qui montre ceci. Il est paru aujourd'hui, ce sondage CSA. 66% des Français sondés se disent favorables à la restriction du droit d'asile. On va aller un petit peu loin, plus loin dans les nuances, disons, en fonction des appartenances politiques, notamment avec Mickaël Dos Santos.
Dans ce sondage CNews CSA, la parité est respectée. Sur les 66% de Français qui souhaitent restreindre le droit d'asile, les femmes sont aussi nombreuses que les hommes. L'écart se veut plus conséquent en fonction de l'âge des personnes interrogées. Les moins de 35 ans sont plus favorables à l'accueil des réfugiés que leurs aînés de 50 ans et plus. L'étiquette politique est également à l'origine de divergences. Près de 9 électeurs de droite sur 10 souhaitent un droit d'asile plus réduit.
En 6 ans, il y a eu 600 000 demandeurs d'asile qui sont rentrés en France. Avant que ces personnes-là arrivent en France, il faut qu'elles formulent leur demande dans leur pays d'origine au sein des ambassades et des consulats français.
A l'inverse, la restriction du droit d'asile n'obtient pas les faveurs des électeurs de gauche. 56% d'entre eux y sont opposés. Au centre et au sein de la majorité, les avis sont moins tranchés.
Ce qui va arriver là, c'est une loi immigration sur laquelle il va falloir qu'on soit ferme tout en restant humain. Donc une loi ferme qui permette de répondre à ces problématiques-là. Et il y a également ce besoin d'aller résoudre ce problème d'asile au niveau européen.
La semaine dernière, Gérald Darmanin a échangé avec les ministres de l'Intérieur des États membres de l'Union européenne. L'objectif, débloquer une réforme de la politique migratoire.
Naïm Fadel, aller vers une réforme de la politique migratoire, développer une politique migratoire commune, c'est pas demain la veille ? Dès que l'Europe s'attelle à ce genre de choses, généralement ça prend un certain temps.
Moi je sais pas, au niveau européen on voit bien qu'il y a quelques difficultés, puisque dernièrement l'Europe nous a annoncé un accord historique. Et en fait l'accord historique c'est tout simplement de répartir tous les migrants, et les pays qui n'en veulent pas devront payer une pénalité de 20 000 euros par personne. Moi, je pense qu'au niveau de la France, il y a un enjeu en fait de cohésion nationale autour de cette question-là, et qu'à un moment, il faut aussi mettre de la raison. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on ne peut plus accueillir de migrants, tout simplement. On ne peut plus, parce que tout est au rouge. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une personne qui met les pieds en France, c'est le droit d'entrée et d'installation, du fait de l'injonction européenne et de la loi Valls de 2012. Donc les personnes viennent d'une manière massive. L'année dernière, je crois qu'entre le regroupement familial, les étudiants et les migrants qui sont arrivés, alors comment les appeler ces migrants, on va les appeler irréguliers, il y a 1 million d'entrées. Donc c'est une pression incroyable. Il faut savoir que sur les centres d'hébergement aujourd'hui, on ne peut plus héberger les personnes, et les personnes qu'on héberge sont aujourd'hui, les migrants sont prioritaires par rapport aux Français, parce que même par rapport à la loi Dalo. Pourquoi ? Parce qu'il y a une injonction inconditionnelle à toutes les aides. Donc on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui, ça déséquilibre complètement. Et le problème, c'est que ça met à mal, aussi encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, la cohésion nationale. Ça déséquilibre complètement et on ne rend pas service. Quand vous voyez que les personnes déboutées, il y en a environ entre 90% qui aujourd'hui ne repartent pas, parce que les EQTF, tout simplement, il faut dire que ça, il y a à peu près 5%, entre 5 et 10% qui fonctionnent. Et vous avez aussi une autre problématique, c'est que les personnes qui sont aujourd'hui prises en charge, hébergées et logées, quand elles sont déboutées, ne sortent pas des centres d'hébergement et qu'on ne les expulse pas. Donc à un moment, il faut avoir un regard, j'ai envie de dire, de raison. Il ne s'agit pas d'arrêter l'immigration, mais je pense qu'il faut les travailler pour qu'il y ait un parcours du pays de départ.
Karim, quand même, quand on voit donc 66%, à un moment donné, il va falloir tenir compte aussi de la volonté du peuple, et puis surtout l'engorgement auquel elle fait référence, même s'il y a deux choses distinctes. Le droit d'asile, c'est pas le regroupement familial. Là aussi, ça supposerait de légiférer autrement sur le regroupement familial. Mais c'est pas la même chose.
On sait qu'aujourd'hui, il est dévoyé.
Mais là, on s'est vraiment intéressé, pour le sondage, au droit d'asile. Il faut faire quelque chose sur ce plan.
Quand on fait le total, c'est 650 000 personnes qui sont entrées par 1 million. Donc, les chiffres, c'est important. Ce que je veux clarifier d'emblée, c'est nonobstant le drame barbare et la barbarie de Annecy, donc nous devons poser la question du droit d'asile et la manière dont nous devons réguler, remettre de l'ordre dans ce droit d'asile. Et on le voit bien. Parce que tous les demandeurs d'asile ne sont pas porteurs d'un couteau et de barbarie. Donc c'est important de le dire. Mais nous devons poser un cadre beaucoup plus exigeant, beaucoup plus rigoureux. D'ailleurs, la preuve en est, les 5 pays qui relèvent du droit d'asile aujourd'hui, dans notre comptabilité, dans nos statistiques françaises. Le premier, c'est l'Afghanistan. Deuxième, c'est le Bangladesh. Troisième, c'est la Turquie. Quatrième, c'est la Géorgie. Et le cinquième, c'est le Congo la République démocratique du Congo. Sur ces cinq pays, il y en a un qui peut relever du droit d'asile. C'est l'Afghanistan, parce qu'on sait la situation de chaos qu'il y a et le danger que peuvent avoir les gens qui sont en quête de liberté. Mais quand vous regardez la Turquie, c'est pas un pays en guerre. Quand vous regardez le Bangladesh, c'est pas un pays en guerre. Quand vous regardez la Géorgie et quand vous regardez la République
démocratique. L'immense majorité des prétendants
ne relèvent pas du droit d'asile. Voilà. Et le problème, c'est quoi? C'est comme on attend pour effectuer la demande que les gens soient sur notre sol, on ne peut plus les faire repartir. Parce qu'on ne se donne pas les moyens de les faire repartir. Donc du coup, bien évidemment qu'il faut, à mon avis, un nombre de pays donc bien énumérés qui doivent pouvoir relever du droit d'asile et être clair sur les autres. Et ça permettra d'éviter que des demandes soient faites et sans aboutissement. Donc oui, ce droit d'asile, il faut le revoir, il faut le réformer. Ça n'enlève rien au droit de l'homme, à l'humanisme, de gens qui viennent de pays en guerre et du tout. Mais ça nécessite plus de rigueur, plus d'exigence, parce qu'aujourd'hui, nous n'en avons pas assez.
Écoutez ce que disait Marine Le Pen ce matin sur les ondes. Elle parle des intérêts des pays concernés.
L'intérêt de l'Italie, c'est de dire, écoutez, vous êtes bien gentils tous, mais tous les migrants qui arrivent, puisque vous considérez qu'il faut tous les accueillir, c'est bien, mais alors on va vous les répartir chez vous. Ce n'est pas l'Italie qui va assumer seule l'ensemble des migrants qui arrivent, puisque c'est une porte d'entrée. Donc elle défend ses intérêts. Notre intérêt, à nous, l'intérêt des Français, c'est de dire non. Il n'est pas question que vous nous forciez à accueillir des migrants, parce que c'est ça l'accord qui a été passé. Appelé relocalisation, on ne voit pas pourquoi d'ailleurs, localisation de migrants sur le territoire national. Et si un État refuse le quota de migrants que va lui imposer l'Union européenne,
il doit payer 20 000 euros.
20 000
par
euros
personne.
Par personne.
Céline Pina, chacun doit donc prendre sa part sous peine de sanction. Est-ce que c'est un vœu pieux? Vous voyez se réaliser ce scénario?
Le vrai problème, c'est que personne n'a envie de prendre sa part. C'est pas comme si on devait se répartir la production de médicaments, l'installation d'usines, etc. C'est pas comme si derrière, il y avait un projet qui apporterait du développement humain ou de la prospérité. En fait, aujourd'hui, le problème de cette arrivée massive, c'est effectivement la cohésion sociale et la cohésion nationale qui est en train de craquer. Le deuxième problème, c'est que c'est vrai, il faut être clair, bien sûr que la personne qui a commis ces attentats à Annecy est une exception. Mais quant à la déstabilisation du pays, le fait de faire rentrer en masse des gens qui ont tous la même culture et qui est une culture qui n'est pas compatible avec la nôtre, c'est-à-dire que ce soit sur l'acceptation de l'égalité entre les êtres humains, le refus d'accorder l'égalité à la femme est profond dans certaines cultures. Le racisme est structurel dans certaines cultures, et les trois quarts d'ailleurs qui nous accusent, nous, d'une forme de racisme. Vous avez des manières de faire et de penser qui ne sont pas compatibles avec notre sociabilité. Ce n'est pas un drame si on accueille les gens, qu'on les éduque et qu'on est très clair dans le contrat moral que l'on passe avec eux. Sauf que là, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de contrat de morale et il n'y a pas de possibilité d'expulsion derrière. Donc effectivement, on marche sur la tête. Et cette histoire n'est pas si absurde de demander aux gens de faire leur demande de l'étranger, pas de leur pays. Parce que ça, on voit bien l'incohérence. En revanche, tous ces gens qui arrivent chez nous, ils traversent des tas de pays dans lesquels nous avons énormément de consulats. Nous sommes un pays qui a un maillage international extrêmement important. Donc ces gens traversent un certain nombre de pays avant d'arriver jusqu'en France.
Mais ces pays-là, là, ils ne pourront pas, parce que ça veut dire que dans l'attente, eh ben, ils devront eux aussi héberger et loger ces prétendants, ces candidats au voyage. Alors évidemment, ça, c'est l'idée de Marine Le Pen.
Donc quelque part, en fait, ce qu'on entend, ce qui est intéressant, c'est que nous, on devrait les accueillir et les pays qui sont sur le trajet, eux, n'ont aucune obligation vis-à-vis
que les autres ne seront pas d'accord plus que nous.
Oui,
c'est ça que je vous dis.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, au lieu de se battre la coulpe comme l'a fait Libération avec, je ne sais pas si vous avez vu le grand titre avec une photo de la mer Méditerranée et marqué leur cimetière.
Ouais. Justement, oui. Voilà, c'est un point extrêmement important. C'est-à-dire que notre appel d'air, on les leur en fait, parce que regardez, tous ceux qui sont déboutés aujourd'hui, alors ceux qui sont expulsés des centres d'hébergement ou qui ont eu la fameuse allocation pour s'héberger tout seul, on les retrouve sous les périphes. Donc on ne rend pas service en fait, parce que tous ces ONG notamment qu'on soutient avec un pognon de dingue, justement, ils participent aussi à ce malheur. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment, il faut qu'on puisse avoir une vraie réflexion d'aider ces personnes-là dans le pays d'accueil, notamment en termes de développement. Il faut qu'on change aussi de paradigme à ce niveau.
On a plein de sons auxquels on veut vous faire réagir. Je vous parlais d'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est un peu la grande affaire du Vivatech cette année. Emmanuel Macron, qui était au salon hier, il parle lui aussi de l'application de l'intelligence artificielle dans les domaines aussi pointus que la sécurité, l'immigration. Écoutez ce qu'il dit, président.
Il y a des tas de choses qu'on peut rendre beaucoup plus efficaces. On a des débats quotidiens sur l'immigration dans notre pays. Quel est le principal problème qu'on a sur l'immigration? C'est très peu un problème de principe, c'est un problème de capacité de traitement de données. On a beaucoup de gens qui arrivent, on a des règles qui sont anciennes et on les traite comme au début du XXe siècle. Et je salue le dévouement de nos agents de préfecture et d'OFPRA. Utilisons l'intelligence artificielle et les technologies pour traiter beaucoup plus vite les données. Il y aura beaucoup moins de fraude, on embauchera beaucoup moins de gens. Et on ira beaucoup plus vite. Donc on doit s'approprier du côté de l'action publique ces nouveaux usages pour être beaucoup plus efficace et faire des économies et avoir un meilleur service.
Non mais franchement Karim, est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que c'est le fond du problème quand on sait que les OQTF ne sont pas effectués en fait?
C'est toujours dramatique quand on a un président de la République et qu'on respecte à l'évidence, qui tape à côté. Il tape à côté doublement, j'ai envie de dire. D'abord parce que aller au-delà du traitement. Si vous ne relevez pas du droit d'asile, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui va envoyer la personne dans son pays d'origine. Et si vous en relevez, c'est l'intelligence artificielle qui va créer les structures que nous n'avons pas pour bien les intégrer. Enfin, je veux dire, les deux bouts de la chaîne ne tiennent pas. Et de quoi nous parle le président de la République? D'administration, de dossiers.
Non, mais pire, de gadgets et des.
Mais c'est pas sérieux. Je veux dire, on a un double problème. Un, quand la demande est rejetée, les personnes ne retournent pas dans leur pays d'origine. Deux, quand la demande est acceptée, nous n'avons pas la politique que les Allemands ont d'apprentissage de la langue, d'intégration, pour faire en sorte que la cohésion nationale, effectivement, puisse être effective. Donc, je veux dire, le président de la République passe à côté de ces deux sujets essentiels. Quel dommage!
Eh bien justement, on va parler du Danemark. Vous le savez, le Danemark, c'est ce pays que beaucoup d'hommes et femmes politiques montrent, érigent en exemple absolu en ce moment, parce qu'en plus, un gouvernement de gauche qui a pris des mesures pas forcément populaires. Il a renforcé donc les mesures pour dissuader tous ses candidats au voyage. Augustin Donadieu nous rappelle un peu quels sont les enjeux.
5,8 millions d'habitants, 11% d'étrangers, dont 58% venant d'un pays non occidental, selon l'Institut Statistique National. Au Danemark, l'immigration a longtemps été un sujet polémique. Aujourd'hui, les partis danois s'accordent sur une ligne migratoire stricte, comme cette politique de démantèlement des ghettos mise en place par le gouvernement social-démocrate au pouvoir depuis 2019. Une mesure officiellement justifiée par une volonté d'intégrer les immigrés, selon ce député social-démocrate danois.
Il n'y a rien qui limite plus les possibilités de réussite pour un enfant que de grandir dans un environnement qui manque de sécurité, de travail et de formation. Cela vaut pour l'intégralité du pays. Il faut que tout le monde ait les mêmes chances de réussite. Cela passe par la mixité des quartiers, par la mixité sociale.
Avec un accès restreint aux allocations et une externalisation de l'asile, les mesures dissuadent les étrangers d'arriver sur le territoire et d'y rester. L'obtention de la nationalité danoise semble être également un parcours du combattant, réunissant des conditions financières et des tests de connaissances du pays. Il faut 32 réponses correctes sur 40 questions. Un prétendant à la naturalisation sur deux échoue.
On a consacré beaucoup d'argent aux immigrants des autres pays, mais on a tendance à oublier qu'on a beaucoup de pauvreté ici. Des gens vivent dans la rue. Je pense qu'on devrait leur consacrer plus de moyens.
Je ne comprends pas vraiment d'où vient cette peur de l'étranger. J'espère juste que les gens n'auront plus peur dans le futur, mais c'est difficile de les faire changer d'avis.
Membre de l'Union européenne, le Danemark bénéficie de nombreuses dérogations en matière de politique migratoire. Depuis la crise de 2015, le nombre de demandeurs d'asile a été divisé par 10.
Céline, j'aimerais rebondir sur les propos de cet élu danois qu'on a aperçu dans le reportage, qui dit, au fond, et encore une fois, c'est un élu de gauche qui parle quand même avec le bon sens, c'est de dire, si on veut accueillir, il faut bien accueillir, enfin ça tombe sous le sens.
En fait, ce qu'il dit exactement, c'est que vous pouvez intégrer des individus, vous n'intégrez pas des peuples ou des communautés. Surtout dans un pays comme la France, où on demande une forme de fusion pour devenir, pour participer et devenir citoyen. Donc dans ce cas-là, effectivement, la ghettoisation vous empêche l'intégration puisque vous allez reproduire sur un sol qui n'est pas le vôtre des manières de vivre qui sont tout à fait gérables dans le pays dans lequel vous venez, mais qui ne sont pas souvent compatibles avec le pays dans lequel vous vous installez. Et donc, si vous voulez que les enfants de ces gens-là aient un avenir, il faut qu'ils deviennent comme les autres. S'ils sont tiraillés entre deux cultures, si vous, les parents, vous n'acceptez pas l'exil et vous ne leur dites pas c'est aujourd'hui dans ce pays-là que vous allez grandir avec les valeurs de ce pays, pas avec les valeurs des parents, alors il n'y aura pas d'avenir possible. En ce sens, il a raison de dire que la ghettoisation est impossible. Mais la mixité sociale, elle demande à ce que le demandeur soit en minorité. C'est-à-dire que l'intégration ne marche que si vous avez, par exemple, une poignée d'enfants étrangers dans une école dans laquelle la majeure partie des élèves connaissent et pratiquent la civilité française. Si vous avez 50% d'étrangers dans une école, alors à ce moment-là, la civilité qui va régner ne sera pas la civilité française et l'intégration ne se fera pas.
Mais Céline, parfois, elle est même de 99%, oui. Pour ne pas dire 100%.
Ça arrive.
Vous avez des villes comme Mantes-la-Jolie, Trappes, etc. Vous pouvez faire toute votre scolarité dans le quartier, de la maternelle jusqu'au collège, voire le lycée. Et effectivement, moi-même, j'ai beaucoup souligné ce que fait le Danemark, parce que justement, ils ont ce souci de cohésion sociale et nationale et d'agréger ces immigrés à la nation danoise. Et ça, c'est très bien. Par exemple, ils ont rendu obligatoire le fait de mettre en crèche un enfant de 1 an. C'est obligatoire. Ils poursuivent, entre guillemets, les parents, c'est-à-dire qu'ils touchent aux allocations familiales des parents quand ils ont des enfants mineurs délinquants. Mais c'est avec un accompagnement, c'est une manière aussi de leur poser leurs responsabilités. Par exemple, concernant le décloisonnement que moi j'appelle de mes voeux, la droite avait dit 50% de personnes étrangères. Eux, ils ont décidé seulement 30%. Et effectivement, merci, l'altérité,
merci,
elle
merci.
Peut se faire.
On va juste casser la dynamique entre vous pour intégrer Karim aussi. Karim, une question. Moi, je sais pas, quand on parle d'immigration, c'est pas juste une question... Parce que souvent, on voit un petit peu à la petite semaine. C'est pas juste une question d'accueillir parce qu'ils sont en mode survie. L'idée derrière l'immigration ou une immigration réussie, c'est pouvoir travailler avec des gens qui sont pas comme vous, pouvoir envoyer les enfants à l'école, pouvoir les faire progresser dans la vie. C'est ça aussi. C'est l'ascension sociale, c'est pas juste une question de survie.
Mais vous avez totalement raison, Nelly.
Dans le tissu et dans le monde associatif, on voit trop ça.
Mais le discours de ce ministre social-démocrate danois, moi je réfute l'idée qu'il se rapproche d'un discours d'extrême droite. Pas du tout. C'est un discours qui dit qu'il faut que nous régulions les flux migratoires, que nous accueillions dignement et que nous intégrions donc mieux. Pour l'égalité des chances. Il parle d'égalité des chances. Il parle de trouver sa place dans la société. Et quelque part, qu'est-ce que font les Danois? Ce que nous devrions faire, c'est casser, je dirais, les politiques publiques qui ont été mises en place. Parce que les ghettos, au Danemark comme chez nous, ne sont pas créés tout seuls. Ce n'est pas un claquement de doigts. Les habitants n'ont pas décidé de tous vivre ensemble au même endroit, donc sans service public.
Moi, je pense que c'est plus facile à réaliser au Danemark qu'en France, quand même. Hein,
non, mais proportionnellement, c'est le même nombre. Non, proportionnellement, ils ont 11% d'étrangers, c'est à peu près le même nombre pour nous.
Il y a moins de monde, quand même.
Ils sont moins nombreux, mais proportionnellement à la population. Donc, c'est une question de volonté politique, Nelly. Donc, oui, il faut réguler mieux qu'on ne le fait. Oui, il faut mieux intégrer avec de l'exigence. Ça veut dire l'apprentissage de la langue. Je le dis souvent, les Allemands, c'est 900 heures obligatoires. Donc ça n'est pas négociable.
On est d'accord, il faut passer les examens de français.
Il faut passer les examens. Aujourd'hui, nous, c'est 250 heures, c'est les associations qui le font. C'est l'État allemand qui s'en charge.
Effectivement, Karim, qui souvent, malheureusement, n'ont pas le niveau requis. Et il n'y a pas d'obligation, par exemple, par rapport aux Allemands ou aux Danois, puisqu'on vous coupe les vivres, enfin, si je puis dire, si jamais vous êtes absent.
C'est vrai que ça tombe sous le sens. Allez, on n'a pas le temps d'aller plus loin sur cette question et on revient juste après la pub pour parler du discours anti-français, le sentiment anti-français qui est en train de prendre une drôle de tournure dans certains pays d'Afrique sahélienne et subsaharienne. On verra notamment aussi que dans le Maghreb, ça se précise, puisque l'hymne algérien s'est doté d'un nouveau couplet qui n'est pas franchement très sympathique à l'égard de la France. À tout de suite. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble et on va reprendre le débat avec Karim Zeribi, Céline Pina et Naïma M. Fadel juste après la Minute Info. Sommeil à la midi, le retour.
Gérald Darmanin outre-Manche pour parler immigration clandestine. Au menu aujourd'hui, une rencontre avec son homologue Suella Braverman pour une réunion de travail. Ensuite, il doit se rendre sur le port britannique de Douvres où il prévoit d'échanger avec les services français de police aux frontières et visiter le centre de commandement opérationnel des petites embarcations. Le pape se dit consterné par le naufrage meurtrier de migrants en Grèce. Le Saint-Père envoie ses prières sincères pour les nombreux migrants qui sont morts, leurs proches et tous ceux qui ont été traumatisés par cette tragédie. Pour rappel, hier au moins 78 migrants se sont noyés au large de la Grèce, l'un des pires naufrages de ces dernières années. Et puis, deux missiles nord-coréens sont tombés dans la zone économique exclusive du Japon. Le premier ministre japonais, Fumio Kishida, a précisé que ces tirs n'avaient pas causé de dommages tout en les condamnant fermement. La Corée du Nord procède régulièrement à des tirs de missiles dans la région. Toutefois, cela faisait plusieurs mois que des missiles nord-coréens n'étaient pas tombés dans la ZEE japonaise.
Merci beaucoup. Une question aussi cet après-midi. Quel est donc ce sentiment, ce discours même anti-français qu'on voit s'exprimer et qui va croissant dans certains pays d'Afrique? Des discours qui s'accompagnent parfois même de manifestations violentes à l'encontre de nos représentations diplomatiques, ambassades, consulats. Et selon l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, ce phénomène pourrait même s'enraciner durablement. Augustin Donadieu.
Le dernier voyage officiel d'Emmanuel Macron sur le sol africain remonte à début mars dernier. Une tournée de l'Afrique sur un continent où le sentiment anti-français émergeait déjà à cette période.
On commence à désigner dans ces sociétés des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. Et l'ennemi de l'extérieur par excellence dans un pays francophone, c'est évidemment l'ancien colonisateur. Les trois principales critiques tourne autour des trois piliers de la politique africaine de la France, à savoir sur la monnaie, sur l'aide et sur la présence militaire.
Cette présence militaire française fait du pays un bouc émissaire idéal et génère un sentiment anti-français réel en Afrique, alimenté par des puissances étrangères telles que la Russie, mais également par les réseaux sociaux, sur lesquels les fake news deviennent rapidement virales.
Certaines photos, on voit des soldats français soi-disant voler de l'or ou s'acoquiner avec des djihadistes. Et toutes ces fake news et ces analyses biaisées ont finalement irrigué les opinions publiques connectées et, par ricochet, les opinions publiques tout court.
Selon ce chercheur, le sentiment anti-français devrait perdurer, même si la fin de l'opération Barkhane et le retrait des troupes tricolores est perçu comme un recul de l'influence française en Afrique.
Naïma, j'ai envie de me tourner vers vous parce que je me souviens que l'an dernier, vous avez été candidate pour tenter de, voilà, pour briguer un siège de député auprès des Français de l'étranger. Est-ce que ça vous surprend? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater, entendre, vérifier vous-même?
Oui, effectivement, ça ne me surprend pas, parce qu'en fait, moi, j'étais sur le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, donc 16 pays. C'était extrêmement intéressant. Ce qui revenait souvent aussi, parce que moi, j'ai été voir notamment les Français qui vivaient dans ces pays-là, et les binationaux, et les instituts culturels, et les établissements scolaires. Alors déjà, par rapport à la francophonie, il faut savoir que François Hollande a baissé pratiquement de 20% le budget consacré à la francophonie et notamment aux instituts culturels. Il a baissé aussi toutes les dotations pour les consulats. Et donc déjà ça, en termes de maillage de la France...
Il n'y a pas de rayonnement, quoi.
Bah, c'est-à-dire que la France, elle rayonnait aussi par sa langue, par les instituts culturels, où les gens pouvaient, que ce soit les binationaux ou les Français expatriés ou les autres pouvaient y aller. Donc là, on a senti vraiment un mécontentement et les Français... binationaux notamment, étaient très mécontents parce qu'ils se voyaient, pour eux, ils se sentaient plus considérés comme des Français. Mmh. Et autre chose qui se passe, c'est qu'il y a aussi beaucoup, les Turcs notamment, j'étais assez étonnée, les Chinois qui étaient très présents aussi. Et ce qui était intéressant, c'est que culturellement, ils s'adaptaient au pays. Vous voyez, donc ça, c'est extrêmement intéressant à voir.
Céline, ce qui est quand même surprenant, c'est que cette influence, de toute façon, française, quand on a dit la France-Afrique existe toujours, il y a toujours une forme de colonialisme économique aussi, mais la présence militaire, par exemple, elle est en train de décroître. Alors, on peut s'étonner que ce sentiment soit aussi nourri.
Alors, souvent, c'est quand une présence décroît que le fait de la trouver insupportable augmente. On a toujours vu ça. C'est quand les choses se détendent qu'elles explosent. C'est un grand paradoxe de l'existence. Mais au-delà de ça, la présence française en Afrique gêne énormément de monde parce que ça fait de la France une nation particulière. D'abord, ça gêne les islamistes qui ont un regard et pour qui la France est un ennemi particulier à cause de sa laïcité. L'Afrique est un pays convoité, c'est-à-dire que ce qui est très drôle, c'est de voir les gens mettre en accusation la France et se retrouver par ailleurs à se soumettre complètement aux désidérata des Chinois. Parce que les Chinois ne s'adaptent absolument pas. Quand ils arrivent dans un pays africain, ils amènent leur nourriture, ils amènent leurs écoles, ils amènent leurs travailleurs.
Ils apprennent la langue.
Oui, mais ils ne font pas travailler les gens. Ils amènent des Chinois qui consomment chinois, qui travaillent dans des entreprises chinoises. Et il y a très peu d'échanges à l'intérieur des pays, voire ils détruisent l'économie de ces pays. Je pense notamment au wax. Aujourd'hui, il y avait toute une partie de l'Afrique qui produisait beaucoup de tissus. Aujourd'hui, ces tissus sont entièrement produits en Chine. Et enfin, vous avez nombre de pays africains qui sont en situation d'échec, mais qui ne souhaitent pas changer leur manière de fonctionner, qui est une mise sous coupe réglée de leur pays pour nourrir leur famille ou leur clan. À ce moment-là, il est beaucoup plus facile d'expliquer que si rien ne va, ce n'est pas parce qu'eux pillent leur propre pays, c'est parce que la France a été colonisatrice. Et tout cet ensemble de faits finit par donner à la France une image détestable. Et comme elle ne propose plus ni éducation, ni école, ni centre culturel, il ne reste que le discours de ceux en France.
Une question, Céline, vraiment, regardez par rapport au Maroc.
On n'a pas beaucoup de temps.
Moi, j'ai vu vraiment le lien très très fort qu'il y a avec la France. C'est très différent avec l'Algérie. Et vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. On n'a même plus d'ambassadeur du Maroc en France.
Parce qu'on a choisi l'Algérie.
J'aimerais juste vous faire réagir Karim à ce couplet que j'évoquais tout à l'heure sur l'hymne algérien. On ne va pas vous jouer l'hymne, on va vous montrer ce couplet qui a été intégré avec quelques phrases. Voilà. Aux France, le temps des palabres est passé, nous l'avons plié comme on ferme un livre. Aux France, c'est le jour du jugement, préparez-vous et attendez notre réponse, notre révolution. Le temps des discours est révolu. Alors, précision. Ce n'est pas du tout quelque chose fait de manière sauvage, que chacun fait à sa sauce. C'est tout à fait officiel, c'est intégré et c'est préparé, programmé dans des événements officiels. Ce qui est perturbant, c'est que ça fait suite pratiquement à quelques mois près à une visite quand même d'Emmanuel Macron assez retentissante dont on a dit « c'était un camouflet diplomatique ». Il y a quelque chose à y voir, il y a un lien à faire là.
Si vous me permettez, il faut donner une information précise. D'abord, l'hymne algérien, c'est 5 couplets. Ça, c'est le troisième. Il a été écrit en 1955. La guerre d'Algérie a débuté le 1er novembre 1954. Donc ce couplet, les paroles de ce couplet, c'est en pleine guerre d'Algérie. Donc elles n'ont pas été faites hier ou avant-hier.
Il avait été oublié puis réintégré.
Il n'a pas été oublié. Il avait été mis de côté et il était utilisé que pour les investitures depuis 1986 des présidents de la République algérienne.
Alors c'est quoi la différence maintenant ?
Aujourd'hui, il a été réintégré, non pas pour toutes les manifestations officielles, contrairement à ce qu'on dit, c'est pour les commémorations. C'est pour toutes les dates qui vont faire référence à l'histoire. Aucun de ce couplet ne sera effectif lorsque, par exemple, un chef d'État viendra en Algérie.
Ah, c'est heureux quand même.
Je pense à notre chef d'État donc français. Donc si Emmanuel Macron se déplace en Algérie demain, ce couplet...
Mais bon, est-ce que c'est à raccorder à ce dont on parlait ? C'est-à-dire, une espèce de défiance, anti-française.
Moi, je pense que, qu'un sang impur abreuve au sillon, c'était pas non plus...
C'était pas désigné personne.
Pardon ? Ça désigné
personne. Je peux terminer ?
Ben oui, non, mais...
Si je peux terminer ?
Mais on a eu ce débat déjà ce matin. Attends, allez-y.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on recontextualise, encore une fois, l'écriture d'un hymne en pleine guerre et qui a été écrit en 1955, on ne peut pas expliquer que la réintégration pour des commémorations historiques soit un élément de discorde entre la France et l'Algérie. Certains voudraient utiliser. Je vois en ce moment, de toute manière, comme un regain de certaines partis politiques, voire personnalités aujourd'hui, de vouloir mettre une entaille dans le rapprochement de Macron et de la France avec Tebboune et l'Algérie. Donc les accords de 68, l'hymne national, que veut-on ? Que veut-on ? Ne plus avoir de relation avec un pays dont la France a été le colonisateur pendant 132 ans, avec une immigration et une diaspora franco-algérienne très importante ? Enfin, allons regarder vers l'avenir.
Important, les dates importantes, on chante cette hymne, on désigne l'ennemi, mais c'est extrêmement violent.
L'ennemi de l'époque. L'ennemi de l'époque.
L'ennemi de l'époque.
Ça ne veut pas dire
que
c'est l'ennemi d'aujourd'hui.
Si on l'avait mis de côté, on peut très bien s'en passer. On est d'accord là-dessus. C'est pas diplomatiquement.
Il ne ressort pas, je tiens à le dire.
En termes de diplomatie, c'est une provocation.
Pour vous, c'est une provocation ?
Oui, en termes de diplomatie, vous annoncez ça, vous le faites officiellement. C'est comme il dit, un couplet qui a été fait à un moment de guerre entre deux pays. Vous le remettez, ça veut dire que vous faites monter le degré d'agressivité entre les deux pays. Mais après, la France ne doit plus rien à l'Algérie. Maintenant, la séparation s'est faite. La question de remettre sur la table les accords particuliers qui nous lient à l'Algérie, elle serait extrêmement saine. Nous n'avons pas à entretenir un lien particulier avec ce pays aujourd'hui. Il est indépendant. Il faut tourner la page, c'est deux côtés.
Ce qui est marrant, c'est que quand on décide, nous, Français, de revoir les accords de 68, qui sont des accords bilatéraux, on peut le faire sans dire que c'est une provocation. On a le droit de le faire. Quand eux... Essayez d'être plus juste.
Karine, vous savez ce qui est dans la balance, c'est les OQTF, voilà.
Mais justement, c'est les accords bilatéraux.
Chacun
il faut quand même peut-être le dire
peut.
Autrement. Quand on dit, donc de notre piédestal, on va arrêter les accords de 68, excusez-moi, on est deux à les avoir signés. Peut-être qu'on peut discuter à deux, non ?
D'accord, mais l'Algérie dit non, on ne reprend pas nos ressortissants, c'est pareil.
Entamer une discussion sereine avec l'Algérie ? Ou est-ce qu'encore une fois, on peut effectivement ordonner
En tout cas, Macron, il n'a pas l'air d'être trop doué pour l'exercice. Hein. Pardon, mais il n'a pas ramené grand-chose à la France.
C'est tout le continent africain, vous l'avez noté. Hein.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes. Alors après, c'est différent, comme je dis. Mais,
les Anglais ont moins de problèmes avec leurs anciennes colonies. Hein.
Allez, on va...
Pas toujours.
Ah, si.
Ça peut être compliqué aussi.
Je peux vous dire
aussi,
qu'ils ont mal la posture et qui est peut-être moins arrogante que nous.
Et revenir pour parler d'Elisabeth Borne, c'est plus en réalité.
Et si on s'interrompait maintenant, il nous resterait quelques minutes pour pouvoir aborder le plan réalité. Allez, ça vaut le coup, à tout de suite.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.